Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Nicole Berriot. Bonjour Nicole.
Bonjour Étienne.
Tu es médiéviste. Est-ce que c'est le bon qualificatif ?
C'est bien. Oui, ça me convient.
Tu es membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres.
C'est cela.
Et le mot lettre est le mot qui va nous préoccuper aujourd'hui, puisque nous allons parler des lettres au Moyen-Âge.
La notion d'inscription, d'ailleurs, qui est la première qui apparaît, correspond exactement à cela, à ce qui est mis sur un support fixe et qui a une valeur esthétique en même temps qu'un message à transmettre.
Je ne connais presque rien sur le sujet, sauf que quand on imagine Moyen-Âge, écriture manuscrite, je vois dans ma tête le nom de la rose, je vois le moine en train d'écrire avec attention dans son scriptorium.
Voilà.
Est-ce que c'est une idée fausse ?
Non. Mais c'est une idée qui limite un peu l'objectif à une pratique de l'écriture qui se fait effectivement dans les monastères. Mais en fait, l'écrit, on en a eu besoin partout. Et dans les lieux de pouvoir, il y avait à côté du roi, de l'empereur, il y avait des hommes qui étaient chargés d'écrire des actes de pouvoir, et donc on a presque toujours eu une chancellerie également, qui produisait dans des conditions évidemment un peu différentes, puisque c'était là le service du pouvoir. Tandis que dans les monastères, au fond, on pratiquait une sorte de transmission d'un héritage. On sait par exemple que ce que nous savons aujourd'hui des textes de l'Antiquité romaine a très largement été transmis par les hommes du Moyen-Âge.
Qui ont copié,
alors qu'on n'a plus des originaux des premiers siècles.
Côté du pouvoir, c'est essentiellement les chartes, l'école des chartes.
Exactement, ce sont les chartes, ce sont les diplômes, comme on disait aussi, c'est-à-dire des actes solennels et des actes qui servent à la manifestation du pouvoir et qui servent également à la gestion, à l'administration, etc.
Donc, les notaires ?
Les notaires, c'est une autre catégorie, en quelque sorte, qui nous renvoie davantage au commun de la société, parce que ce sont les hommes indispensables pour assurer la transmission des biens, les mariages, etc. Le mot même est intéressant parce qu'ils prennent en note en réalité et ils prennent en note au vol un certain nombre de choses. Ils ont des formulaires naturellement, mais il y a aussi toute une part d'échanges immédiats et ils ont une capacité, grâce à un système d'abréviation, de noter beaucoup de choses. Là où dans les chancelleries, ou aussi dans les scriptoria, hein, au pluriel, donc, ce qu'on fait, c'est plutôt de produire quelque chose qui aura une valeur pérenne. C'est généralement plus lisible, c'est plus développé, tandis que, évidemment, les notaires prennent simplement les choses essentielles qu'ils vont ensuite redévelopper dans leurs actes.
Trois publics d'écrivains. On a les moines, pour simplifier, oui. Les écrivains, les chartistes, je ne sais pas comment on dit.
Oui, bah, disons les copistes des chancelleries. Quoi, hein,
Et puis les notaires.
Oui, il y a une quatrième catégorie qui va se développer, qui est très importante, ce sont les gens des écoles. À partir du moment où se développe un enseignement au niveau supérieur, à partir, disons, du XIIe siècle, on a une grande production. Le développement de l'écrit se fait beaucoup dans les écoles et dans les villes. Et du coup, on va avoir une autre catégorie qui sont des ateliers urbains professionnels de l'écriture et d'autre part des étudiants qui, comme les notaires, prennent des notes.
Ah, alors là, les écoles, il s'agit plutôt d'universités.
Voilà. Enfin, on dit école parce que le mot d'université, disons, c'est imposé comme institution un peu plus tard, tandis que les écoles, elles sont déjà très vivantes.
On a compris qui écrit, maintenant comment on écrit. C'est-à-dire, Ces gens-là, ils ont la même écriture.
Ah non, ce qui fait le plaisir de l'historien médiéviste, c'est la variété des écritures. Et donc, c'est à chaque fois un défi d'arriver à lire. Non seulement il y a les lettres de l'alphabet latin qui varient énormément dans le temps, et qui varient en particulier, semble-t-il, parce qu'il y a un changement dans les instruments. On a développé l'hypothèse qui reste tout à fait valide, selon laquelle la manière dont on taille sa plume a une incidence sur la modalité d'écriture. Donc, il y a les lettres, mais il n'y a pas que les lettres. Il y a des abréviations, énormément d'abréviations, avec des signes d'abréviation, et il y a des signes qui servent à structurer le texte. Par exemple, les fameux pieds de mouche qu'on retrouve encore aujourd'hui, y compris dans nos polices d'écriture de nos ordinateurs, se forment d'un C. Le pied de mouche, ça sert à marquer les paragraphes.
D'accord.
Donc c'est complexe en réalité, pas seulement des lettres.
Est-ce qu'il y a une structure, une autorité qui permet de garantir une uniformité ? Est-ce que tous les moines utilisaient le même style d'écriture ?
Non, non. Il y a des moments où l'autorité politique ou bien le milieu culturel produit des changements. Par exemple, à l'époque de Charlemagne, il y a une grande réforme liturgique qui exige qu'il y ait une unité de la célébration du culte. Et pour ça, il faut des textes, naturellement, et des textes qui soient partagés. Et il faut corriger les erreurs et rendre des textes très lisibles. Et on invente, dans ce contexte-là, une écriture particulière qu'on appelle
la Caroline.
Caroline. Et au XVe siècle, les humanistes qui cherchent à transmettre aussi des textes de l'Antiquité, découvrent ces textes de l'Antiquité écrits dans l'écriture caroline entre le Xe et le XIe siècle, ça, elle a continué, et ils croient que c'est une écriture extrêmement lisible, ils croient que c'est même une écriture qui remonte à l'époque romaine, et donc ils vont en faire la première écriture d'imprimerie.
Les Carolines sont en fait assez proches de nos minuscules.
Exactement. Exactement. C'est parce que, justement, les humanistes ont imposé cette manière d'écrire, d'abord dans les manuscrits, c'est passé ensuite dans les livres imprimés, soit les polices de caractère, caractère droit dit romain, soit les italiques, qui sont inventés également comme une variation. Mais c'est toujours cette écriture caroline qui sert de matrice.
Les majuscules sont essentiellement les écritures épigraphiques.
Oui, essentiellement. Mais il faut voir que dans les manuscrits, comme on n'a pas, on essaie d'utiliser au maximum l'espace de la page, parce que le parchemin coûte cher, eh bien, on va faire une variation entre l'usage des majuscules et des minuscules. Donc, on aura, par exemple, des titres en majuscules, on aura des lettres capitales qui vont s'opposer au reste. On va donc essayer d'utiliser la variation entre la majuscule et la minuscule pour faciliter les repérages sur la page.
Qui, déjà, n'est pas facile.
Qui n'est pas facile. Et je dois dire que la mise en page doit être absolument associée à la lecture des lettres même, parce que les deux ensemble permettent de mémoriser. On voit la page et de ce fait, il y a disposition qui va majuscule, minuscule, capitale en début, etc., pied de mouche, tout ça, ça aide.
Maintenant, je vais te poser une question qui va probablement pas te plaire.
Ah.
Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas révolutionner ton métier ?
Non, pas tout à fait. Ça me plaît bien quand même, mais non, ça me plaît. Parce que l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet, je dirais même, les nouveaux logiciels qui ont été mis en place de déchiffrement automatique des écritures ont fait des progrès considérables dans les dernières années. Je me souviens qu'il y a 15 ans, on n'y croyait pas. On disait c'est une utopie. Et aujourd'hui, par exemple, il y a à Notre-Dame de Paris un registre très important qui a été fait par les chanoines de la cathédrale, registre de leur délibération génération, il est actuellement soumis à la lecture de logiciels qui permettent de déchiffrer.
Et ça marche ?
Ça marche pas à 100%, mais ça marche remarquablement, parce qu'on a exercé l'outil et que petit à petit, on a progressé, bien sûr. Donc ça permet ensuite de se guider dans le texte, parce que souvent, ces documents-là sont des documents récurrents, on essaye de trouver un détail nouveau, et donc ça permet déjà d'avoir une première carte du texte, en quelque sorte, avant de repérer l'île qu'on cherche.
Est-ce que les écrivains de cette époque avaient un latin constant ? C'est au fil des siècles, il y a eu probablement beaucoup de variations.
Oui, il y a beaucoup de variations. Il n'y a pas d'ailleurs que le latin, parce que les langues vernaculaires, à partir d'un certain moment, vont aussi se manifester fortement à l'écrit. Hein. Au début, c'est vraiment du latin. Mais à partir, disons, à partir du XIIe siècle, on commence à voir se développer les textes en langue vernaculaire. Mais il y a une très grande variation, je dirais plus encore dans les langues vernaculaires, hein, par exemple en français, l'ancien français, le moyen français, etc. Mais aussi, il y a évidemment une évolution du latin qui est liée à la pénétration des mots de vernaculaire, qu'on latinise et qui change un peu le contenu des textes.
Parlons de l'outil maintenant. Est-ce qu'on écrivait avec des plumes ?
Oui, bien sûr.
Des plumes d'oiseaux ?
Plumes d'oie.
Des plumes d'oie.
Alors, il y a un grand changement, justement. On passe du calame à la plume d'oie.
C'est quoi un calame ?
C'est du roseau. Et puis ensuite, alors, la plume d'oie est elle-même taillée de manière différente. D'abord, c'était un biseau symétrique. Et puis ensuite, on a taillé davantage sur un côté. Donc, il est dissymétrique. Et à ce moment-là, d'après les explications des spécialistes, c'est un des éléments qui permet de comprendre comment l'écriture change. Parce qu'on ne pose pas la main de
la même manière
selon les cas, et donc par exemple pour les pleins et les déliés, c'est très important.
Toi, tu sais écrire avec une plume d'oie ?
Je dois avouer que j'ai jamais essayé.
Jamais essayé.
Mais une de mes étudiantes qui est passionnée de cela a essayé. Elle m'a dit que c'était pas facile. Il faut un apprentissage.
En ce qui concerne l'encre, les encres qui subsistent pendant 1000 ans ?
Oui, alors il y a beaucoup de variétés aussi, hein, selon les procédés de fabrication. Je n'ai pas en tête le détail des composants. Ce qui est intéressant, c'est que les encres correspondent aussi à des aires géographiques et donc à les usages. Et ce qui fait que beaucoup de documents ne sont pas localisés, on ne sait pas où ils ont été produits, mais grâce aux encres,
on sait d'où ils viennent.
Identifier, en tout cas des aires, voilà. Mais il y a une très grande variété d'encres, de couleurs d'encre, de qualité d'encre. Et dans la durée, on voit bien que certaines d'entre elles résistent magnifiquement et que d'autres, au contraire, pâlissent très fortement.
Ah, tout ça est vraiment passionnant.
Ah, c'est magnifique ce métier, oui. Et je voudrais ajouter que parmi les instruments, il ne faut jamais oublier la main. Par exemple, à propos de François d'Assise, le grand hagiographe Jacques de Voragine, qui a écrit La Légende Dorée, a fait des sermons. Et dans un sermon, il raconte que François est saint de la tête aux pieds. Et il décrit tous les éléments du corps et il dit ses bras sont saints, ses mains sont saintes et son écriture, qui vient de la main, est aussi sainte. Et ça, c'est magnifique parce que c'est la première fois que moi, je voyais l'appartenance de l'écriture au corps, et c'est un élément du corps, c'est au fond quelque chose qui correspond tout à fait à l'authenticité que l'on réclame pour les documents autographes. Et ça, c'est vraiment c'est émouvant d'imaginer que quand on a un texte écrit, on a quelque chose de l'homme qui l'a produit à travers sa main.
C'est magnifique.
C'est beau, hein?
C'est magnifique.
Ouais.
J'ai J'ai une question que je pose tout le temps.
Oui.
Est-ce que tu pourrais me citer ou me proposer une musique qui illustre ce dont on vient de parler ?
Je crois quand même que ce qui est le plus proche, c'est le chant grégorien. Parce qu'il y a quand même aussi la même recherche d'une régularité qui facilite la mémorisation. Il y a, je dirais même, les dessins sur le parchemin qui, d'une certaine manière, ressemblent un petit peu aussi. Et donc, oui, je dirais que c'est ça. Et puis l'interprétation qui reste quand même l'affaire de l'individu qui va chanter, quoi.
Et les moines écrivaient dans le silence ou bien ont chanté en écrivant ?
Autant que je sache, c'est un travail qu'on fait dans le silence, qui est très ardu d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand ils ont terminé un travail très long et très ardu, non seulement à la fin, ils écrivent un petit mot quand ils sont sérieux pour dire quand ça a été fait, quand ça a été fini, mais on voit le soulagement en disant « le travail est fini ». J'aimerais maintenant boire un verre.
Ah.
Oui, oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le colophon. Ce sont les derniers mots qui sont dans le manuscrit, dans les longs manuscrits, et ça, c'est merveilleux. Alors, quelquefois, il y a de l'humour aussi, mais l'idée, c'est toujours, voilà, je suis soulagé, j'ai terminé.
Là, il se lâche. Merci beaucoup, Nicole.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.